m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée, vous le savez, en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir, 3 voix subtiles et à droite pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays, Jean-François Coulon-Désart, journaliste et écrivain, il est là.
Bonsoir à tous.
Philippe Charlez, expert en énergie.
Bonsoir Marc, bonsoir chers auditeurs.
Toujours présent, et il y a un absent, c'est Gérard Gachet, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, mais je pense qu'il arrive. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On essaiera, vous le savez, de les lire à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes tous les bienvenus. Au programme ce soir, beaucoup de choses. Un petit édito. Tiens, je vous parlerai de Raphaël Arnaud qui s'apprête à toucher son indemnité parlementaire, comme si de rien n'était. Indemnité du mois de février. Nous parlerons de la Nouvelle-Calédonie. La France a-t-elle perdu la partie? Ce sera notre grand dossier avec le député Rouget, député européen, qui est ici et qui nous parlera de ce dossier qu'il connaît par cœur. Qui veut la mise au pas de nos réseaux sociaux? Ce sera notre second sujet. Et puis nous aurons, comme d'habitude, notre petit clin d'œil culture. Mais auparavant, traditionnel tour de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine? C'est drôle de poser cette question après le drame qui a écrasé l'actualité du jeune Quentin, mais voilà, on en parlera peut-être un petit peu à l'instant. En tout cas, Jean-François Coulon-Désart et Philippe Charlez, qu'est-ce qui vous a alerté?
Eh bien, écoutez, moi, je vais
allez,
mettre
Jean-François Coulon-Désart.
Je vais mettre un sujet à la une de l'actualité. C'est les normes. 400 000 normes en France, plus de 90 000 articles de loi, 250 000 articles réglementaires, près de 50 millions de mots, sans parler des circulaires, des normes techniques rendues obligatoires et bien sûr des normes européennes. Alors, selon une étude de l'Institut Kairos qui a été créé centre de réflexion qui a été créé par Alain Madelin, absolument, si on commençait à simplifier ces chiffres, c'est pas très compliqué, si on voulait supprimer 3 fois plus de normes que nous le faisons aujourd'hui, actuellement, il nous faudrait plus de 4 siècles. J'ai bien dit 4 siècles
oui,
pour
long.
Traiter le tiers de notre stock, à condition bien sûr qu'aucune nouvelle norme se greffe à nous. Alors, Madelin, dans son cercle de réflexion, propose un droit à la simplification. C'est une idée intéressante, c'est une idée de droit de saisine en matière de simplification, qui est d'ailleurs inspirée par les pratiques internationales. Donc ça, voilà, c'est ça qui m'a frappé cette semaine. Mettons les normes et la réduction des normes à la une de l'actualité, et il faut une méthode absolument radical.
Ouais, absolument. Et il dit que en fait, l'idée, ça serait que n'importe qui pourrait contester
absolument.
Les normes, et ce serait à l'administration de prouver qu'elles sont absolument indispensables.
Exactement. C'est
très
exactement
intéressante
ça.
Idée.
Ouais. Hein. Il faudrait faire venir Alain Madelin ici d'ailleurs, qui nous explique ça dans
Mais
le détail.
Absolument. Allez, on relève le défi. Philippe Charlez.
Je vais être positif. Et parler de ces Jeux Olympiques d'hiver qui se sont terminés en Italie avec une belle moisson de médailles pour la France. Je me rappelle plus combien de médailles, mais je crois qu'on a battu, on a battu notre record de médailles, avec beaucoup de médailles, notamment dans les sports de fond, dans le ski de fond, beaucoup plus que dans le ski alpin, qui reste quand même une faiblesse pour les Français.
Ça a très mal marché.
Et ça me rappelle en fait un événement marquant qui a tué le ski français. Je sais pas si vous vous rappelez de ces quatre ou cinq skieurs qui avaient été exclus en 1974 par la Fédération française de ski, des noms qui sonnent comme des grands champions, comme Patrick Russell, Jean-Noël Augère ou bien encore Henri Duvillard, qui parce qu'à l'époque ils avaient fait un peu de publicité avaient été exclus, et ça a complètement foutu le ski français en l'air pendant plusieurs décennies, et je pense qu'on ne s'en est toujours hélas pas remis. Mais enfin, pour une fois, cocorico, puisque belle moisson de médailles. Et puis n'oublions pas que dans 4 ans, c'est la France qui organise les Jeux Olympiques d'hiver, de nouveau à Albertville, si je ne m'abuse.
Voilà. Ben Quel est le plus grand skieur français?
Le rendez-vous est pris.
Jean-Claude Killy. Qui avait gagné en 1968 les trois disciplines descente, géant et slalom.
La Coupe du Monde aussi.
Voilà. Et ce qui n'a jamais été,
refait. Renouvelé. Absolument.
Voilà, le record reste à battre. En vous entraînant un peu, peut-être Philippe Charlez, non?
Il skie très bien, Charlez. Hein.
C'est vrai?
Attention,
c'est
le seul Belge qui
j'ai une flèche d'argent.
Ah, quand même.
Quand même, voilà.
Quand même.
Voilà, c'était l'arrivée de Gérard Gachet. Bonjour, Gérard Gachet. Donc, votre actualité, vous tombez bien, vous tombez à pic.
Bah, son petit-fils.
Ça, je préférais que ce soit mon petit-fils. Non, elle est beaucoup moins gaie. Mais quand même, j'ai été frappé par quelque chose qui s'est passé le 25 février, donc il y a quelques jours. Un brave homme, chauffeur routier de son état, de 39 ans, se lève tôt pour partir au travail. Il est à Libercourt, dans le Pas-de-Calais. Il prend la route pour rejoindre son entreprise. Et pour son malheur, il croise 4 jeunes de 15 ans, qui sont dans une voiture, une Audi A3, si je ne me trompe pas, donc une voiture puissante, qui le percute, ils perdent le contrôle de leur véhicule, ils le percutent. Eh bien, cet accident dramatique a causé la mort du chauffeur routier de 39 ans et de deux des jeunes de 15 ans, les deux autres étant dans un état, enfin l'un d'entre eux dans un état désespéré, et le quatrième, pas non plus en très bon état. Donc, c'est un peu ça la France d'aujourd'hui également. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est parfois la mort qui les attend au bord de la route suivante. Donc c'est un point effectivement pas très gai, mais malheureusement c'est aussi ça notre pays aujourd'hui.
Vous y voyez un point d'ensauvagement, un peu.
Je ne connais pas quels sont les jeunes. On a donné les prénoms de trois d'entre eux, Gino, Lucas et Nathan. Bon, qui sont d'un village d'à côté, de Stricourt, mais je ne tire pas de conclusion, mais c'est quand même un drame, et qu'effectivement, 4 jeunes de 15 ans puissent être ensemble à 2h45 du matin dans une voiture puissante.
C'est quand même surprenant.
Aucun n'a évidemment
que font les parents.
Ni le contrôle, ni le permis de conduire, ni la faculté de conduire, d'avoir un véhicule de ce genre. Donc, l'enquête démontrera, j'espère, comment... Et on en est arrivé là.
C'était une voiture volée ou pas?
Elle n'était pas déclarée volée. Est-ce qu'elle
non, mais c'est les parents. Comment on laisse sortir des gamins à 2h du matin qui ont 15 ans, quoi.
Déjà à 15 ans, ça va pas.
Alors qu'un couple de parents ne voit pas son enfant, mais que sur 4 enfants, il n'y en ait pas un ou une ou deux familles qui aient réagi et qui se soient dit tiens, il se passe quelque chose. Voilà, c'est assez affligeant.
Terrible, absolument terrible. Bon, et un petit point, moi, figurez-vous qu'on vous aurait dit, Jean-François...
Non, pour rajouter quelque chose après ce que vient de dire Gérard, je me souviens d'une vidéo qui avait tourné il y a quelques années, c'était deux gamins de 17-18 ans en Angleterre, et ils filmaient, c'était la nuit, au volant d'une voiture puissante, une Golf, peut-être GTI, et ils filmaient le compteur, en hurlant de joie, etc., ils arrivent à 200 km/h, ils filment le compteur, et tout d'un coup, il y a un bruit énorme, et il fait tout noir. Et ce sont les parents, les deux gamins sont morts bien sûr, ce sont les parents qui ont mis en ligne cette vidéo pour essayer qu'elle soit dissuasive. Vous voyez, ça s'arrête en une fraction de seconde. C'est très impressionnant.
Alors, moi, de mon côté, bah, écoutez, si on nous avait dit il y a 4-5 ans, 6 ans, qu'un financier qui était en relation avec le pouvoir, les hautes sphères du pouvoir aux États-Unis, entraînerait la révélation de ces frasques, entraînerait la démission du PDG de Davos, vous m'auriez dit non, mais il faut arrêter le complotisme et les romans noirs, hein, et ça va pas la tête. Et ben, c'est précisément ce qui est arrivé. Hein, donc, le PDG de Davos a démissionné, c'était hier, suite à l'affaire Epstein, dans laquelle il est.
Attention à la façon dont on prononçait le nom.
Epstein, oh oui, Epstein, Epstein.
Voilà, bien sûr. Incroyable.
Oui, bien sûr.
Mélenchon. Mélenchon, ah oui, entre Epstein incroyable. Et Epstein. Et oui, je me que ceux qui disent Epstein, c'est pour russifier le nom.
Voilà.
Qui est dans le cas, c'est parce qu'en anglais, Stein se prononce plutôt Stein.
Absolument.
Mais ça n'a rien à voir avec une russification.
Bien sûr.
Enfin, ah, cette sortie de Mélenchon, avec des relents d'antisémitisme quand même assez appuyés,
ah, bah oui,
la façon de prononcer Stein était quand même effarante. Effarante.
Il a même voilà. Comparé avec Frankenstein.
Oui. On ne dira plus Frankenstein, mais Frankenstein.
Trotskiste un jour, Trotskiste toujours.
Oui, mais je pense que Léo Bronstein n'aurait pas apprécié cette façon de dire.
En tout cas, cette affaire Epstein a entraîné la décapitation de Davos, ce qui est quand même
une conséquence qu'on aurait eu du
mal à imaginer il y a quelques années. Voilà, donc je ne veux rien dire.
Je crois aussi l'incarcération, du moins la mise en examen d'un ancien ministre anglais, je crois aussi.
Oui, Peter Mandelson, non
voilà. Oui. Alors évidemment, c'est la dernière, dernier bouchon qui a sauté.
Le dernier, mais je crois qu'il y a encore quelques bouchons qui pourraient sauter.
Je crois qu'on
n'est pas à la dernière bouteille.
On a un prince anglais, tout un monde qui est mouillé dans cette affaire-là de manière dramatique. Mais c'était quand même le fait que ça touche Davos, j'ai trouvé que c'était assez incroyable. Parce que bon, voilà, c'est...
Et c'est pas fini, parce qu'il y a encore beaucoup de documents.
On sait que c'est un cloaque, hein, ce Davos, qui a une prostitution absolument épouvantable autour de Davos. C'est épouvantable, tout ça.
Marqué,
c'est officiel. Il y a des dizaines d'articles partout, vous cherchez sur Internet.
Partout, il y a des grands salons, des grandes rencontres.
Il y en a eu un récemment du 20
Il y a souvent la prostitution.
Voilà. Oui, mais en Suisse, c'est légal, je vous rappelle.
Ah oui,
En Suisse, vous avez des maisons closes, comme en Autriche, comme en Allemagne, tout ça est légal. En France, c'est interdit, mais en Suisse, c'est légal.
Sans une nuance de regret, mon cher.
Absolument, je l'ai déjà dit ici, je milite pour la réouverture des maisons closes, bien sûr, tout à fait. Faut assumer.
Bon, ça sera un autre débat. Hein. En attendant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voulais vous faire parler en guise d'édito de Raphaël Arnoux, qui s'apprête à toucher son indemnité parlementaire du mois de février, tranquillement.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Pendant que l'État s'occupe donc de dissoudre Patria Albigès et les 20 militants du bloc Montpellierin, deux groupuscules d'extrême droite que moi je ne connaissais pas, peut-être vous, mais le député Raphaël Arnoux, lui, s'apprête à toucher dans quelques heures son indemnité parlementaire pour le mois de février, soit 7 637 € brut. Il ne lui manquera pas un centime. Et il pourra, dans la foulée, profiter des vacances parlementaires, puisque l'Assemblée nationale ne siège plus. La semaine prochaine, personne ne remarquera plus à la télévision l'étrange absence du député dans les travées de l'Assemblée nationale. Les élus LFI, qui devraient faire bloc pour le pousser à la démission, protègent bec et ongle leur député éclaboussé. Mélenchon l'a soutenu tous les jours, de toutes ses forces, avec succès, puisqu'il est toujours député. Soyons précis, Raphaël Arnoux n'est pas directement impliqué judiciairement dans le lynchage à mort du jeune Quentin à Lyon. Il n'était pas présent sur les lieux du crime, mais il est moralement plus mouillé qu'aucun autre. Tout homme qui a un peu d'honneur, un peu de sens des responsabilités, un peu de compassion pour la famille de la victime se précipiterait pour proposer sa démission. Pas lui. Les raisons ne manquent pas. D'abord, Raphaël Arnoux n'a pas pu effectuer son travail parlementaire. Ensuite, la jeune garde, impliquée dans le lynchage à mort du jeune Quentin le 14 février devant Sciences Po Lyon, c'est son œuvre. Il a créé cette milice, il l'a construite, formée, accompagnée. Enfin, trois de ses ex-collaborateurs sont directement impliqués sur le plan judiciaire dans ce crime sauvage. Son ex-attaché parlementaire et son ex-stagiaire sont mis en examen. Un troisième attaché parlementaire du même Arnoux sera convoqué ultérieurement. Deux des trois hommes doivent toujours expliquer leur présence à Lyon en pleine semaine, quand ils étaient censés partager leur temps entre Avignon et Paris au service de Raphaël Arnoux, ceci jusqu'à preuve du contraire. Ces hommes, payés par l'État français entre 2000 et 3200 euros mensuels pour travailler au bien-être de tous, font aujourd'hui l'objet d'une enquête autour d'un lynchage atroce. Ont-ils été envoyés à Lyon sur ordre ou avec la bénédiction de Raphaël Arnaud ? On est en droit de se poser la question. On songe à François de Rugy, contraint à la démission pour un repas au homard, à François Fillon, dont le costume ruina la campagne présidentielle, vous vous souvenez, à Aquilino Morel, acculé par la révélation de ses liens avec un laboratoire et ses goûts luxueux, à Jérôme Cahuzac, convaincu de fraude fiscale. La presse de gauche hurlait alors à la démission, il n'avait pourtant tué personne. Tandis qu'une famille pleure un frère et un fils, Raphaël Arnaud n'assume pas, ne s'explique pas, ne s'excuse pas, ne démissionne pas et encaisse donc toujours l'argent de l'État, fruit de l'effort des Français. La lâcheté de cet homme, de son parti LFI et de son chef Mélenchon est au-delà des mots, à mon humble avis. Voilà, ce député toujours en poste, est-ce que ça vous paraît normal finalement, ça peut se défendre hein, ou est-ce que c'est un scandale Philippe Charlez.
Alors ça dépend où on se place. Comme l'a dit Jean-François, trotskiste un jour, trotskiste toujours. Un trotskiste ne s'excuse pas, un trotskiste dénie toujours. Ça fait partie de son comportement. Donc je crois que dès le départ,
ça explique,
il ne fallait attendre
aucune... Ça explique sa propre mentalité.
Mais ça explique... Non, ça n'explique pas sa mentalité à lui. Ça explique la mentalité... Mais tout à fait. Mais ça explique la mentalité d'un trotskiste. Un trotskiste ne s'excuse pas, un trotskiste a toujours raison et dénie tout. Ça fait partie de ses chromosomes, si j'ose dire. Donc, pourquoi attendre de lui une démission ou, disons, le moindre regret?
Parce qu'on se dit quand même qu'au fond de chaque homme, il peut y avoir quand même un soupçon de conflit, de conscience.
Mais pas chez un trotskiste. Est-ce que Staline s'est excusé? Est-ce que Mao s'est excusé? Est-ce que Pol Pot s'est excusé? Aucun. Au contraire. Plus il tuait, moins il s'excusait. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est le... Je crois que le chromosome d'un trotskiste fait que...
Vous pensez qu'il ne s'excusera pas?
Jamais. Mais ni Mélenchon, ni aucun LFI ne s'excusera jamais.
Au contraire,
ils utiliseront la théorie du complot qui fait partie de leur gène. Donc il ne faut pas attendre la moindre excuse et le moindre regret. Ça voudrait dire qu'ils renient à ce qu'ils pensent.
Ouais, on a le droit d'appeler ça des sauvages. Jean-François Coulon des Arts.
Mais qui est à la manœuvre dans cette histoire?
C'est pas
Arnaud, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon qui décide de tout, qui dirige tout. Il l'a pas lâché, le petit Arnaud
pourrait dire non, écoutez, j'ai quand même une conscience, elle est mauvaise.
Vous êtes vraiment candide, vous êtes naïf.
Le petit Quatennens, s'il avait pas été lâché. Il avait battu sa femme, je crois, le petit Quatennens. Oui. Il a jamais été lâché.
Un petit peu plus quand même.
Il a jamais été lâché. Et Arnaud ne sera pas lâché par Mélenchon. C'est la stratégie des armées romaines.
Il a été plus lâché. Vous avez raison.
Quatennens a été plus lâché parce que toutes les femmes de LFI, se sont désolidarisées.
Un petit peu. Oui, d'accord.
Ah, si. Et donc il a finalement démissionné lui-même. S'il avait été un peu lâché, tandis qu'ici finalement c'est de la violence et ça fait vraiment partie du carcan, donc il n'y aura jamais aucune excuse.
Il n'y aura aucune excuse, et puis je vous dis, la LFI fait la stratégie de la tortue, chère aux armées romaines, on met des boucliers partout et on se victimise. Je veux dire, c'est un processus, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, c'est un processus trotskiste très connu, ça ne change rien.
Oui, mais quand il y a eu un dérapage quelconque, bon, on peut à la limite le comprendre, non pas l'excuser, mais le comprendre. Mais là, il y a mort d'homme, il y a un garçon qui pleurait par sa famille. C'est quand même terrible, qui a été lynché à 6 contre 1.
Mais il a été lynché pour la bonne cause. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre.
Oui, ça doit être ça. Gérard Gachet.
Oui, derrière le drame de la mort de Quentin et l'énorme scandale de l'attitude de LFI, il y a des mini-scandales autour. On découvre ainsi que des gens peuvent travailler à l'Assemblée nationale, y être employés, y être salariés ou y être élus sous pseudo. Monsieur Raphaël Arnaud s'appelle Raphaël Archenot. Triple fichier S en plus, mais déjà travaillé sous pseudo à l'Assemblée nationale. Et deux de ses collaborateurs sont également sous pseudo salariés de l'Assemblée nationale. Comment est-ce possible? Comment les services de sécurité peuvent tolérer une situation pareille? Je pense que Madame Braun-Pivet, qui donne facilement des leçons à tout le monde, pourrait être interrogée sur ce sujet-là.
Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle a été assez lamentable dans cette affaire. Hein. Franchement, moi, je l'ai entendu accuser l'extrême droite. C'est ce qu'on entend. L'ultra-droite, l'extrême-droite, etc.
Mais arrêtons,
on fait le procès
arrêtons,
de l'extrême-droite alors que...
Arrêtons avec ce vocable d'extrême-droite.
Alors qu'ils ont un mort sur les bras. C'est quand même incroyable.
Il n'y a pas de parti d'extrême-droite en France. Quand on prenait la définition de l'extrême-droite, du fascisme, je veux dire, c'est pas très compliqué quand même. La définition du dictionnaire, ce sont des gens qui ne reconnaissent pas la République, qui veulent prendre le pouvoir par la force et qui sont antisémites. Est-ce qu'il y a un parti? Si, j'en vois peut-être un. Mais pas là où on croit, de droite qui corresponde à ça. Aucun.
C'est assez marrant parce que j'avais moi-même regardé la définition du fascisme. Et donc, il y a certains mots qui ressortent comme économiquement totalitaire, dérision, instrumentalisation et intimidation, violence, milice, déni et théorie du complot. Voilà. Cherchez l'erreur.
Voilà.
Allez, on en reparlera, je sens que le dossier est loin d'être refermé. À venir, qui veut la mise au pas de nos réseaux sociaux? Ça sera notre conversation de fin d'émission. Mais tout d'abord, on part sur le plat de résistance. Nouvelle-Calédonie, la France, a-t-elle déjà perdu la partie?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charles, Jean-François Coulon-Desart et Gérard Gachet, mardi, le Sénat a approuvé la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie. Il a adopté par 21 voix contre 41 à une large majorité donc le projet de loi constitutionnelle issu de laborieuses négociations. Est-ce une première étape vers un largage de la Nouvelle-Calédonie ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons André Rouget. Bonjour André Rouget.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
Vous êtes député, on est ravis, vous êtes député européen RN élu depuis 2019, vous êtes le délégué national du Rassemblement National à l'Outre-mer et vous êtes aussi le président et fondateur des ORAS, ce cercle de hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'affaires et intellectuels qui apportent son expertise à Jordan Bardella et à Marine Le Pen. Alors pour mieux vous connaître, il faut ajouter que vous êtes un ancien officier chef de section au 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, je suis sûr que ça ira droit au cœur de certains de nos auditeurs, que vous avez été journaliste reporter, alors là, moi ça me va droit au cœur, que vous avez couvert notamment la rébellion sandiniste du Nicaragua, et que vous connaissez bien l'entreprise, hein, puisque vous êtes l'ancien directeur des relations extérieures de Bouygues, vous l'avez été longtemps, hein, de 2002 à 2018. Voilà. Nous allons parler de la Nouvelle-Calédonie et de l'outre-mer française, bien sûr, mais auparavant, je voulais qu'on dise quelques mots sur la tragédie, justement, du jeune Quentin, lynché à mort par l'extrême-gauche française, on en a parlé à l'instant. Je voulais vous poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle idéologie peut retirer ainsi chez des jeunes Français, en plus des Français d'origine, hein, toute apparence de sentiment humain? Vous avez signé une vidéo pour pointer du doigt le trotskisme, on en parlait à l'instant, qui fait des ravages chez ces militants d'ultra-gauche. Est-ce que c'est là la racine?
Effectivement, il me semble qu'il convient de resituer l'affaire de Quentin dans un contexte politique, historique, et aller chercher la genèse de cette action. Gérard Gachet a cité tout à l'heure Lev Bronstein. Je ne vous ferai pas l'injure, aux hommes de culture que vous êtes, de vous demander si vous connaissez bien Lev Davidovich Bronstein, mais c'est pas nécessairement le cas de tous les auditeurs. C'était déjà le pseudo de Léon Trotsky. Léon Trotsky, l'homme qui, au début du siècle dernier, a théorisé le recours à la violence comme outil d'accession et d'exercice du pouvoir. Léon Trotsky, qui est à l'origine de la répression des marins de Kronstadt. Léon Trotsky, créateur de l'armée rouge dans la lutte des partisans blancs. Léon Trotsky, fondateur des premiers camps de concentration que Solzhenitsyn a fait connaître par la suite au travers de l'archipel du Goulag. Et Léon Trotsky, maître à penser de Santerre. Alors, qui est sans terre? On a beaucoup parlé de pseudo tout à l'heure à propos des collaborateurs de M. Archenault, Raphaël Arnault, parce que c'est une manie chez les militants trotskistes de vivre sous couverture avec un pseudo. Et sans terre, c'était le pseudo de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il militait à l'organisation communiste internationaliste l'OCI, qui est aux côtés de son camarade Costa, pseudo d'un autre militant trotskiste et non des moindres, puisque c'était le patron de l'OCI, Jean-Christophe Cambadélis, et à une époque où, en bloc, l'OCI a décidé de l'entrisme. Alors, l'entrisme, qu'est-ce que c'était? C'était une stratégie qui visait à intégrer en bloc le Parti socialiste pour peser de l'intérieur sur la politique. Sur la politique à venir.
Lionel Jospin.
Et ils n'ont pas été des moindres. Vous citez Jospin, moi je vous réponds Michel.
Voilà.
Michel qui était le pseudo de Lionel Jospin et qui allait prendre ses petits cours chez Pierre Lambert.
Il y avait Edouard Pénel
le soir.
Crassi.
Et il y avait, attendez, je suis venu avec ma liste. Je suis venu avec ma liste. Il y avait Benoît Hamon, Michel Sapin, Henri Weber, Julien Drey, Pierre Moscovici, François Rebsamen, David Assouline, Jean-Marie Le Guen, et puis plus tard, on a vu apparaître au moment au moment de la création de SOS Racisme, parce que il faut le dire, François Mitterrand a su bien les utiliser.
Oui,
donc au moment de SOS Racisme, on a vu l'apparition de Julien Drey, qui était le binôme, entre parenthèses, de Jean-Luc Mélenchon dans le département de l'Essonne, où ils étaient tous les deux élus.
Assouline, après.
Et également Harlem Désir, qui a lui aussi, comme moi, été député au Parlement européen.
Que vous voulez dire...
Et Isabelle Thomas, qui a terminé, proche collaboratrice du président Mitterrand.
Ouais,
donc il y avait une stratégie d'entrisme, dont l'apogée a été effectivement la nomination de Lionel Jospin au poste de Premier ministre, fonction qu'il a exercée pendant la cohabitation de 1997 à 2002 sous Jacques Chirac.
Est-ce que vous voulez dire que pour un Mélenchon, par exemple, est-ce qu'il ne voit pas dans un Raphaël Arnault, finalement, le jeune trotskiste radical qu'il était lui-même il y a quelques années?
Je pense que Jean-Luc Mélenchon a bouclé la boucle le jour où il a quitté les larmes aux yeux, pour ne pas dire en larmes, les locaux de la rue de Grenelle où il officiait en tant que ministre de l'enseignement supérieur.
Sous-ministre socialiste.
Et qu'il a vraisemblablement décidé ce jour-là de revenir à ses premiers amours et de revenir à la base du trotskisme, c'est-à-dire la violence. Et aujourd'hui, il a créé, avec d'abord le Front de Gauche, puis avec la France Insoumise, une formation politique qui a vocation à accéder au pouvoir par tous les moyens. Seule la fin compte, et quand je dis par tous les moyens, c'est la violence comprise. Il suffit d'écouter les propos des différents...
Ils s'en défendent, ils disent qu'ils sont non-violents, etc.
Les différents députés de la France Insoumise...
Ah, étaient non-violents aussi.
A commencé par la première d'entre eux à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, qui a quand même déclaré dimanche dernier sur un plateau de télévision...
Elle ne reconnaîtrait pas...
LFI fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer à l'accession aux responsabilités de l'exécutif de notre pays, du Rassemblement national. Donc, que sous-entend-elle en disant tout ce qui est en son pouvoir?
Elle a dit bien plus grave que ça. Elle a dit que si... Le RN arrivé au pouvoir, il lutterait contre. Et il ne reconnaîtrait pas le pouvoir.
Il reconnaîtrait pas le résultat des urnes.
Voilà, des urnes, c'est bien plus grave. C'est bien plus grave.
Absolument. On est dans une situation où Mélenchon se rêve plus ou moins en Karl Liebknecht, avec Manon Aubry et Mathilde Panot qui concourent dans le rôle de Rosa Luxembourg. Et ils sont prêts à
tout. Des tricoteuses.
Elle a pas très bien
Raphaël Arnault, chef de le chef des sections d'assaut de LFI, c'est le bras armé de Mélenchon.
Vous diriez que c'est une milice?
Ah ben oui.
Bah comment voulez-vous appeler ça?
Bah oui.
Comment voulez-vous appeler ça dès lors que la violence de ce mouvement est avérée, revendiquée, assumée, et qu'il y a un lien structurel entre la Jeune Garde et la France insoumise. Il est nécessaire quand même de rappeler que les candidats du nouveau Front populaire qui ont concouru aux dernières élections législatives bénéficiaient de l'investiture de la Jeune Garde sur leur bulletin de vote.
Mais et sur leurs affiches. Je crois que le ministre de l'Intérieur, Retailleau,
Jean-François
a dissous
Coulomb,
la Jeune Garde.
Qui piaf.
Mais il a dissous la Jeune Garde, c'est une dissolution en trompe-l'œil, parce qu'il suffit de changer de nom, puis on recommence. Quoi.
Mais ils ont même déjà contesté.
Oui, en plus ils contestent sur la loi. On va voir ce que veut dire le Conseil d'État. Ouais. Alors là, attention. Ouais. Hein.
Et je trouve qu'il prend beaucoup de temps, le Conseil d'État.
Beaucoup
c'est
trop.
Assez curieux.
Beaucoup trop.
Si jamais il avait décidé de casser la décision de dissolution et qu'il trouvait que c'était inopportun en ce moment d'annoncer,
ça va être un vrai scandale.
Il durerait comme ça. Mais je ne sais pas ce qu'il a décidé, bien sûr.
Bah en tout cas, je vous remercie, monsieur le député, d'avoir remis ça dans un contexte historique avec tout ce que vous avez dit sur le trotskisme, parce que ça montre en fait qu'il n'y a aucune surprise par rapport au comportement de ces gens. Parce que tout le monde a l'air surpris, ils ne respectent pas la démocratie, etc. Mais encore une fois, c'est dans leur ADN. Je vous conseillerais de lire un livre qui est très intéressant, qui s'appelle « La passion de l'égalité » d'un philosophe belge qui s'appelle Drieu Godfredi, et qui explique très bien que le nazisme n'est qu'un avorton du marxisme. C'est-à-dire que globalement, c'est un avorton nationaliste du marxisme. C'est la seule différence.
Bien sûr, d'ailleurs, il se prétendait socialiste.
En fait, il se prétendait nazi veut dire national-socialisme, et il explique très bien qu'il y a avait deux tendances. Il y a une tendance internationaliste, c'est-à-dire que pour les marxistes, tout bon terrien peut devenir un bon marxiste, alors que pour les nazis, tout bon terrien ne peut pas devenir un bon nazi. C'est la seule différence. Mais sinon, en dehors de ça, Hitler n'a rien inventé. Ça n'est qu'un copieur médiocre de ce que Staline et Trotsky ont inventé, c'est-à-dire les camps de concentration, comme vous l'avez dit, n'est absolument pas une invention d'Hitler, mais une invention de Staline. Donc, le vrai fascisme a été imaginé non pas du tout par Mussolini et par Hitler, mais par Staline et par Trotsky.
Mais si on fait le compte des morts, Staline est bien devant Hitler. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a?
Si on fait le compte des morts, Staline est bien devant Hitler.
J'avais une question. Le génocide communiste se chiffre en dizaines de millions
c'est
de morts.
C'est 100 millions, le livre noir du communisme.
Et je souhaiterais ajouter, si vous me le permettez, puisque cette stratégie ne s'est pas circonscrite exclusivement au milieu politique. Vous avez cité le nom d'Edoui Plenel tout à l'heure.
Oui.
Ça a été une stratégie d'entrisme, y compris dans le milieu culturel. Benjamin Stora était militant trotskiste.
Et dans les universités.
Edoui Plenel était, il faut le rappeler, le rédacteur en chef du quotidien Rouge, qui était l'organe de la Ligue communiste.
Il était rédacteur en chef ou simple journaliste?
Non, il a été patron de Rouge.
Patron de Rouge.
Il était rédacteur en chef de Rouge, qui était l'organe de la Ligue communiste avant qu'elle ne devienne la Ligue communiste révolutionnaire.
Il est toujours rédacteur en chef.
Alors, les écoles de journalisme ont été infestées par des enseignants trotskistes. Et on a vu ce qu'il en est sorti pendant des années. Et j'aimerais, à ce sujet, vous raconter une anecdote, puisque je suis aujourd'hui parlementaire du Rassemblement National, mais j'ai longtemps évolué dans la galaxie gaulliste du RPR. Et lorsqu'Alain Juppé était à Matignon, une grande école de journalisme parisienne, que je ne citerai pas, était à la veille de mourir de sa belle mort.
CFG.
Et elle était, il fallait vraiment, il lui fallait pour survivre, une subvention que le ministre de la Culture de l'époque, Philippe Douste-Blazy, s'apprêtait à lui verser. Je me suis propulsé à Matignon, voir le directeur adjoint du cabinet de l'époque, Patrick Stefanini. Je lui ai dit, écoute, il faut surtout qu'il y ait un arbitrage visant à empêcher le versement de cette subvention. C'est trop beau ce qui se passe, là. Alors, il m'a dit, écoute, tu vas voir Tartampion, là, dans le bureau un peu plus loin. Je suis allé voir Monsieur Tartampion dans le bureau un peu plus loin, qui était un fonctionnaire en place au cabinet de Juppé pour quelque temps, auquel j'ai expliqué ce qui se passait. Il m'a regardé comme si j'étais comme si je débarquais de la planète Mars. Trois semaines plus tard, lui était muté dans je ne sais quel poste, et l'école en question a touché sa subvention, a pu continuer à faire sortir des petits militants trotskistes professionnels de l'agitprop. Cet agitprop qu'ils utilisent de façon indécente aujourd'hui. Suffit d'écouter le discours de Mélenchon hier soir, puisque c'est la dialectique marxiste. Il renverse dans son discours la charge de la preuve. Et finalement, Quentin n'aurait eu que ce qu'il méritait, puisque dans le fond, il n'était qu'un militant néo-nazi.
Bien sûr, alors, bien sûr.
À ma connaissance, il était militant de l'Action française, et les gens qui ont un peu de culture, un peu d'histoire, savent que ce sont les militants de l'Action française qui ont été les premiers résistants à l'occupation nazie années 40.
On lui inflige l'antisémitisme de Maurras, alors qu'ils ont rompu avec l'antisémitisme depuis la guerre.
Juste une précision sur l'école de journalisme dont vous parlez. Est-ce que c'est celle de la rue du Louvre? Si c'est celle de la rue du Louvre,
c'est bien elle,
votre action n'a pas été inutile parce que on a instillé justement des gens qui n'étaient pas trotskistes, qui n'étaient pas de gauche, qui étaient avant tout des journalistes, mais avec une obédience de droite. Je peux en témoigner parce qu'avec certains camarades, nous y étions. Donc ça a permis
Suis un ancien élève
de réquipe,
ligue dissoute.
On était 42. On était 42 dans ma promotion. Nous étions trois considérés comme étant de droite, deux qui l'étaient réellement, et le troisième, il voulait être journaliste sportif. Donc dans l'esprit des trotskistes,
rassurez-vous, j'envisageais pas de conclure qu'il y avait d'anciens militants trotskistes autour de la table.
Philippe
Charlez.
J'avais une question importante à vous poser. Cet entrisme, aujourd'hui, il existe partout. Des trotskistes, il y en a partout. Il y en a non seulement dans les médias, on l'a dit, il y en a évidemment en politique, mais il y en a aussi dans les universités.
Beaucoup.
Énormément d'ONG qui sont, et notamment dans le domaine que je connais bien, qui sont les domaines d'énergie et du climat, où ils utilisent et instrumentalisent la thématique pour ça. Vous arrivez au pouvoir, monsieur le député, dans un an et demi. Vous allez avoir du mal face à cet entrisme, ça va pas être simple. Le départ, ils vont bien sûr s'opposer à vous. Qu'est-ce que vous faites?
Je prolonge la question de Philippe parce que j'avais la même. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse radicalisée qui est élevée à l'école du lynchage? C'est la même question.
Écoutez, malheureusement, si nous n'avions des difficultés qu'avec cette jeunesse ultra politisée par le trotskisme, ça serait un moindre mal. Si le sort des urnes à l'issue de l'élection présidentielle et des élections législatives nous est favorable, ce que j'espère, mais rien n'est fait, puisque la période que nous vivons étant des plus troublées et tumultueuses, nous sommes à 15 mois des échéances, et tout peut se passer, ne serait-ce que la semaine prochaine. On vit vraiment une période des plus agitées, sans aucune visibilité. Nous sommes bien lucides que nous allons retrouver le pays sur des décombres, sur un tas de ruines, et qu'il va falloir tout reconstruire. On va se retrouver dans une situation quasiment analogue à celle de Gaulle lorsqu'il est arrivé effectivement en 58. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analogies entre la période que nous vivons et la période pré-gaulliste. Et Sébastien Lecornu n'est d'ailleurs pas sans me faire penser à Félix Gaillard, voyez-vous.
Voilà. Si vous permettez, j'ai une question pour vous, monsieur le député. Comment, revenons un instant sur Mélenchon. Mélenchon qui a été un apparatchik socialiste, qui a été ministre, qui a été sénateur, qui a été député. Comment il apparaît comme un homme neuf auprès de cette jeunesse. C'est un peu d'ailleurs le tour de passe-passe qu'avait fait Mitterrand.
C'est vrai qu'on fait du neuf avec un vieux.
Qui avait été ministre 5, 6, 7 fois de la 4e, qui avait, etc., etc., la Francisque et tout le bazar. Comment vous expliquez ça?
Je pense que les jeunes générations actuelles et à venir ont un déficit d'éducation, puisque l'éducation nationale n'a pas été oubliée dans cette stratégie d'entrisme. On voit bien qu'il y a eu au sein de l'éducation nationale un véritable nivellement. Il n'est plus question d'enseigner convenablement l'histoire. Il suffit de lire des notes rédigées par quelques jeunes gens issus de cette génération et pourtant souvent diplômés. Et ils sont le plus souvent dans l'incapacité d'écrire quelques lignes sans faute d'orthographe, de conjugaison ou d'accord. Ils parlent un français de plus en plus approximatif, anglicisé et tiktokisé, SMSisé. Faut pas s'étonner qu'il n'ait pas la culture historique nécessaire pour réaliser que il y a une espèce de retour d'une idéologie politique des plus funestes et qui s'est très tristement illustrée par le passé.
Allez, on va parler de Jean-Noël Barrot qui convoque l'ambassadeur des États-Unis à Paris pour des propos de bon sens sur l'assassinat du jeune Quentin Dérenque, juste après cela.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charles, Jean-François Coulon-Désart et Gérard Gachet, nos trois mousquetaires qui sont fidèles au poste, nous recevons André Rouget, député européen Rassemblement National, élu depuis 2019, délégué national du Rassemblement National Outre-mer et président et fondateur des ORAS. C'est ce cercle de hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'affaires, intellectuels, qui apporte son expertise à Jordan Bardella, à Marine Le Pen et au Rassemblement National tout entier. Quel regard porte l'étranger sur la France aujourd'hui, puisque vous avez un œil sur nos dom-toms, mais aussi à l'étranger? Jean-Noël Barrot a convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Paris, vous avez vu, pour des propos de bon sens hein, sur l'assassinat du jeune Quentin. Vous dites, j'ai lu sous votre plume, à l'inverse, les provocations répétées du régime comorien sur le département français de Mayotte ne suscitent aucune rétorsion.
De fait, j'observe qu'effectivement, à l'époque de la contestation,
donc ils sont plus sensibles aux
contestations des Gilets jaunes,
propos de
l'ambassadeur Mayotte. D'Italie à Paris avait également été convoqué au Quai d'Orsay. Parce qu'il avait eu l'outrecuidance lors d'un passage en France, un ministre italien avait eu l'outrecuidance lors d'un de ses passages en France de rencontrer des gilets jaunes. Là, l'ambassadeur des États-Unis est convoqué parce qu'il a reconnu que l'assassinat de Quentin Dérenque était un drame absolu, de la même façon que Madame Meloni l'a fait, et qu'elle s'est fait renvoyer dans sa ligne de 22 par le président Macron. Et effectivement, le président Macron et les différents ministres du Quai d'Orsay qui se sont succédés sont assez peu prompts à convoquer l'ambassadeur de l'Union des Comores lorsque le colonel président Azali déclare sur les ondes du service public français, sur RFI, « Moi, écoutez, je ne reconnais pas l'autorité du préfet de Mayotte parce que je ne reconnais pas l'autorité d'un fonctionnaire français sur mon territoire. » Alors, ça veut dire que alors que les Mahorais qui ont décidé par trois fois et par voie référendaire de rester français sont à la merci de l'irrédentisme comorien qui n'a en rien renoncé au rattachement de Mayotte à l'archipel des Comores, et ce qui explique en partie la submersion migratoire que subit notre département de l'océan Indien, parce qu'il y a une volonté d'occupation du sol français par la présence d'une forte immigration comorienne. Ce qui fait que actuellement et officiellement sont recensés à peu près 320 000 personnes vivant dans le département de Mayotte. En réalité, il y a près de 600 000 personnes avec la moitié, issue de l'immigration et la moitié de cette moitié en situation irrégulière.
Ouais, alors on va y revenir, hein, parce qu'on va évidemment parler des DOM-TOM, on va parler de la Nouvelle-Calédonie. Mais auparavant, je voulais faire un petit détour là, par l'Europe, parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé aujourd'hui, tout à l'heure, là, ce vendredi, que l'Union européenne allait appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec les pays du Mercosur, en dépit des réserves de la France et de la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par les eurodéputés. Est-ce que vous vous y attendiez, honnêtement, ou est-ce que c'est une surprise ?
Écoutez, il faut absolument s'attendre à tout de la part de Mme von der Leyen, surtout lorsque l'on parle d'un traité dont la vocation est de vendre sur le continent sud-américain des Mercedes, des Volkswagen, des Audi et des BMW. Parce que le véritable objet du Mercosur, il est là. C'est la conquête du marché automobile allemand sur le continent sud-américain. Et la variable d'ajustement, bah, c'est la mort de nos agriculteurs. C'est la mort de nos agriculteurs qui sont confrontés à une triple aberration. Une aberration économique, une aberration écologique et environnementale et une aberration sanitaire. Une aberration économique parce que ils ne sont pas en mesure de concurrencer une main-d'œuvre brésilienne à 300 euros par mois, une aberration écologique parce que il y a peu de temps une mission de la Commission des affaires internationales du Parlement européen qui s'est rendue sur place dans le port de Puntas, j'ai peut-être une mauvaise prononciation, et qui a pu constater que ce sont 15 000 containers qui quittent le port chaque jour. Et alors, on sait très bien que l'empreinte carbone, elle est à plus de 50%. Ce sont les moyens de transport, et notamment les moyens de transport maritimes, aériens, qui sont à l'origine de cette empreinte carbone de plus de 50%. Et enfin, une aberration sanitaire ou phytosanitaire, parce que vous évoquiez tout à l'heure les normes, nos agriculteurs sont soumis à des normes extrêmement drastiques, notamment en ce qui concerne tout ce qui est phytosanitaire et sanitaire. Nous allons subir la concurrence déloyale et l'importation de produits qui ne sont soumis à aucune norme de ce type, avec des bovins nourris aux OGM, à l'antibiotique, etc. Et nous ne sommes malheureusement pas en mesure de concurrencer. Et quand on sait en France, un agriculteur se suicide tous les deux jours, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas fait le nécessaire pour empêcher la signature de ce traité. S'il avait vraiment voulu empêcher ce traité, il ne se serait pas contenté de faire en sorte que la France ne le signe pas lorsqu'il a compris que nos agriculteurs étaient vraiment en colère et que cette colère risquait de déboucher sur une convergence des luttes et vers un soulèvement général dans le pays. S'il avait vraiment voulu, il aurait pris sa canne et son chapeau et il serait allé faire la tournée des capitales européennes de façon à convaincre ses homologues, de ne pas signer le traité afin de réunir la majorité des 35% de la population des 27 États de l'Union européenne nécessaire à la signature d'un veto. Quand on peut, on doit, disait Bonaparte, et lui n'a absolument rien fait.
Il n'a pas fait le travail. Jean-François Coulon des Arts.
De toute façon, ce dossier, on sait que là où on arrive aujourd'hui, on sait que ça va se passer, que ça se passera comme ça. Puisque le fait que les parlements nationaux ne ratifient pas ce traité à cause, Ursula von der Leyen, qui a séparé le traité en deux pour éviter les parlements, parce que sinon ça ne serait pas passé. Donc on savait très bien que, effectivement, Ursula allait mettre ce traité au quotidien. Ben ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Politique à la chaise vide, on rejoue De Gaulle, on fait quoi? Avec l'Europe.
Mais
qu'est-ce
qu'on fait? Ils ne font rien.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Il
faut taper du poing sur la table, mais vraiment.
Alors, nous avons, nous, au Parlement européen à Strasbourg, non pas à la dernière, mais à l'avant-dernière session, fait en sorte...
André Rouget.
Avec quelques députés du PPE, puisque nous avons obtenu un vote à bulletin secret, nous avons obtenu qu'il y ait une saisine de la Cour de justice européenne. Le lendemain, nous avons le groupe des patriotes et Jean-Paul Garot, notre chef de délégation des députés du Rassemblement national, nous avons déposé une motion de censure. Ce qui veut dire que les députés LR et du PPE qui, la veille, s'étaient laissé pousser le courage, la colonne vertébrale et autre chose pour rester convenable, se sont à nouveau replanqués sous le tapis. Ça, c'était la seule façon concrète d'empêcher l'aboutissement de ce traité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous évoquez la chaise vide. Il vous aura pas échappé que Emmanuel Macron a peu d'analogie avec De Gaulle.
Ça, c'est sûr.
C'est ça. C'est certain. Question? Non. Alors, on referme cette parenthèse et on va parler de la Nouvelle-Calédonie.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Nous sommes avec André Rouget, député européen Rassemblement National et délégué national du Rassemblement National à l'Outre-mer et président aussi des ORAS, mais c'est surtout le délégué national à l'Outre-mer que nous allons interroger. On va parler de la Nouvelle-Calédonie. L'information est passée discrètement. Mardi, le Sénat a approuvé la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie. Il a adopté le Sénat donc par 21 une voix contre 41, une large majorité, donc le projet de loi constitutionnelle issu de laborieuses négociations. Alors, je voulais qu'on écoute d'abord le sénateur de Marseille, Stéphane Ravier. C'était ce mardi 24 février, il s'exprimait à la tribune du Sénat avec sa truculence coutumière. Vous allez voir, il nous dit « La France s'apprête à quitter la Nouvelle-Calédonie avec un grand coup de pied au derrière. »
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la France s'apprête à quitter la Nouvelle-Calédonie avec un grand coup de pied au derrière, car notre classe politique semble plus intéressée par le sort et la souveraineté du Groenland et de l'Ukraine que par la destinée de la France outre-mer. Faut-il que Donald Trump convoite la Nouvelle-Calédonie pour que le président de la République porte ses plus belles lunettes aviateurs et appelle toute l'Europe à un réveil stratégique? Cette convoitise est pourtant clairement exprimée par la Chine et l'Azerbaïdjan. Faut-il que Vladimir Poutine attente à l'intégrité territoriale de la Nouvelle-Calédonie pour que nous y envoyions des moyens militaires et des milliards d'euros? C'est pourtant notre priorité. La France a non seulement le droit, mais le devoir de revendiquer, soutenir et défendre sa propre souveraineté en Nouvelle-Calédonie. La France est la deuxième puissance maritime mondiale sur laquelle jamais le soleil ne se couche. Aucun continent, ni aucune mer n'est étrangère à la France.
Monsieur Rouget,
moyennant quoi Stéphane Ravier s'est abstenu sur un texte pour lequel il aurait été mieux inspiré de voter contre.
Bon, et ben voilà, c'est dit. Hein. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, j'allais vous demander, sur grosso modo, sur cette analyse, et puis surtout, l'état de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que c'est une première étape vers un largage du territoire, et si oui, pourquoi?
Écoutez, il faut toujours reprendre le sujet à ses origines. Tout à l'heure, s'agissant des trotskistes, j'évoquais l'histoire, j'avais évoqué cette fois la géographie. Pour les gens qui nous écoutent et qui situent mal la Calédonie, je les invite à regarder une carte et ils verront que la Nouvelle-Calédonie est le dernier maillon d'un chapelet de territoire, d'archipel et d'îles allant de l'Indonésie à la Nouvelle-Calédonie en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu, qui sépare la mer de Chine de la mer de Corail qui s'échoue sur les rivages d'Australie. Donc, inutile de vous dire que d'un point de vue géostratégique, la puissance chinoise est omniprésente dans cette zone, est en embuscade et est déjà très présente aux îles Salomon, économiquement,
c'est ça, le danger.
Économiquement en Indonésie, que la Nouvelle-Calédonie recèle en son sein 20 à 25% des réserves mondiales de nickel, et qu'il y a une quinzaine d'années, on a découvert un plateau continental sous-marin dans cette zone du deuxième domaine maritime mondial, s'étendant sur toute la zone Pacifique Sud, concernant à la fois la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Et alors même que le début d'un commencement d'ébauche d'études n'a pas été initié, nous savons pour autant que ces fonds marins et sous-marins regorgent de nodules polymétalliques et de terres rares. Donc, les nodules polymétalliques, c'est du cuivre, du zinc, du nickel également, et les terres rares, elles vont être à ce siècle...
Donc, des richesses.
Elles vont être à ce siècle ce que le pétrole aura été au siècle dernier. Donc, je vous laisse imaginer la convoitise qui peut être celle d'une puissance mondiale qui n'a, en termes en termes de contraintes, aucun état d'âme, que les contraintes soient économiques, environnementales. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie vit une période dangereuse. Dans ce contexte, dans ce contexte, et depuis le début du premier mandat...
Est-ce qu'on va vers un transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie?
Face à la complexité d'une situation, je souhaite quand même faire une explication assez exhaustive de façon à ce que vos auditeurs comprennent bien. Donc, dans ce contexte, depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il y a trois erreurs, pour ne pas dire trois fautes majeures qui ont été commises par Emmanuel Macron et ses différents ministres de l'Outre-mer, et plus particulièrement, Sébastien Lecornu, notre actuel Premier ministre, qui a été l'un des pires ministres de l'Outre-mer de l'histoire de la Ve République, et par Gérald Darmanin. Alors, quelle erreur ont pu commettre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu? Au moment du Covid, de l'épidémie de la Covid, les Français d'origine mélanésienne, qui sont des Français à part entière, mais qui vivent loin de la capitale de la France, à 16 000 kilomètres, avec des us et des coutumes qui ne sont pas celles de la Creuse, du Finistère ou du Var, ont demandé le report du troisième référendum issu des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa concernant l'indépendance. Ils ont demandé un report de façon à pouvoir respecter le deuil des victimes de l'épidémie, ce que le gouvernement a refusé. Ça a été très mal vécu. Première faute. Deuxième faute, la nomination de Madame Sonia Backès, présidente de la province sud, au gouvernement. Alors qu'il apparaît dans les accords de Matignon et dans l'accord de Nouméa que l'État doit respecter une stricte neutralité. Et comprenez que cette nomination est apparue localement comme un véritable chiffon rouge pour les indépendantistes. J'ajoute à cela que Madame Backès, à la tête d'un mouvement nommé les Loyalistes, n'a de loyalistes que le nom. La seule ambition de Madame Backès, c'est sa réélection aux prochaines élections provinciales et conserver ses avantages, ses prébendes liés à sa fonction. Enfin, c'est une figure que l'on connaît bien dans le macronisme ambiant. Et ces loyalistes ou pseudo-loyalistes sont prêts à tout, croyez-moi, pour parvenir
ils sont loyaux
à leur fin,
envers leurs propres intérêts.
Pour parvenir
c'est ça que vous
à leur
dire.
Fin personnelle, y compris à brader les intérêts de la France.
Ouais.
Et troisième faute,
Troisième faute,
c'est le passage en force de la loi organique sur le dégel du corps électoral, dont les loyalistes pensent avoir besoin pour se faire réélire, ce qui n'est pas forcément avéré. Et je vais vous conter une anecdote. J'étais dans le bureau de Marine Le Pen lorsqu'on a appris l'inscription à l'ordre du jour de cette loi. Les gens qui étaient là, qui étaient bons connaisseurs de la Nouvelle-Calédonie, ont tous réagi de la même façon en disant « Mais Darmanin va mettre le feu à la plaine calédonienne. » C'était fin mars 2024. Début avril, Marine Le Pen a appelé Gérald Darmanin en lui disant « Écoutez, j'attire votre attention qu'il y a un risque de violence et que vous êtes dans la préparation des Jeux Olympiques, vous n'aurez pas les escadrons de mobiles et de CRS nécessaires au maintien de l'ordre. » Darmanin lui a ri au nez, on connaît la suite, il y a 15 Français qui ont été tués dans les émeutes du mois de mai 2024. Alors, dramatique. On arrive dans tout ça, Manuel Valls, bébé Rocard, accède aux responsabilités du ministère des Outre-mer Riudino. Il envisage de refaire ce qu'a fait Michel Rocard en son temps. D'ailleurs, avec la même équipe de l'époque, les Alain Krisnart et consorts, qui ont fait de l'indépendance de la Calédonie leur cheval de bataille depuis des décennies. Et la démarche de Valls accouche des accords de Bougival. Alors, les accords de Bougival, c'est la création d'un État calédonien dans la France, d'une citoyenneté calédonienne, de la reconnaissance de la Calédonie par des puissances étrangères extérieures, et surtout...
Donc on fait quand même un grand pas vers l'indépendance.
Et surtout, le transfert des compétences régaliennes, défense, la sécurité, la justice, la monnaie, et il est inscrit dans le dernier accord Élysée-Oudinot que lorsque ce transfert de compétences aura été effectué, il sera temps de constater de part et d'autre que la Nouvelle-Calédonie n'est plus dans la France.
Monsieur Rouget, on va faire un peu de politique fiction. On est en mai 2027. Vous venez d'être nommé ministre des Outre-mer. Quelle est la première décision que vous prenez par rapport à la Nouvelle-Calédonie?
J'assois tout le monde autour de la table, les représentants de toutes les formations politiques, les gens de la société civile, du monde économique, des chambres consulaires de commerce, d'agriculture, les syndicats, MEDEF, CPME, etc.
On a l'impression d'avoir vécu ça déjà 100 fois, et je leur dis,
parce que le problème, c'est que la Calédonie est ruinée aujourd'hui. Les émeutes de mai 2024 ont mis le territoire à plat. C'est-à-dire
les banques ne paient plus,
les assurances ne payent pas, et aujourd'hui, dans les rues de Nouméa, on voit des gens se nourrir dans les poubelles. Voilà où on en est aujourd'hui dans un territoire français.
Vous réunissez tout le monde.
Je réunis tout le monde.
On fait quoi ?
Et je leur dis plutôt que de nous déchirer sur un débat institutionnel clivant par nature, parce que le résultat institutionnel sera nécessairement un compromis qui persistera à faire des mécontents de part et d'autre. Donc on se concentre sur la reconstruction et le développement économique du territoire
qui est de nature
à rassembler et réconcilier tout le monde. Nous avons d'ailleurs produit, nous sommes rendus sur place au mois d'avril dernier avec Marine Le Pen, et à l'issue de ce voyage, nous avons produit un document où il est question effectivement de la relance de l'industrie du nickel. On va en dire un mot parce que c'est le Neugordien. Parce que c'est le Neugordien sur le nickel. il faut réfléchir, compte tenu du contexte géostratégique que j'ai décrit, à l'implantation d'une base interarmée.
Ah bah voilà, ça c'est une décision, ça.
Qui sera un véritable poumon poumon économique pour le territoire et la diversification de l'agriculture, parce que vous avez un territoire de 500 km de long sur 80 km de large et qui importe encore les produits agricoles. Et enfin, l'exploitation des fonds marins et sous-marins.
D'accord.
J'ai une question un peu naïve, mais vous l'avez rappelé, monsieur le député, les accords déjà négociés ou en cours de négociation, enfin les réformes, se traduisent par un État de Nouvelle-Calédonie dans l'État français, un État, une nationalité calédonienne au sein de la nationalité française, des compétences régaliennes qui sont maintenant dévolues pour certaines au territoire de la Nouvelle-Calédonie, un système de mode électoral avec une constitution du corps électoral qui est différente sur le territoire qu'elle l'est en France métropolitaine, par exemple, avec des conditions de résidence, d'ailleurs sur lesquelles beaucoup de gens se déchirent. Enfin, tout cela, est-ce que le Conseil constitutionnel peut laisser passer tout ça ? L'État dans l'État, la nation dans la nation, la nationalité dans la nationalité, enfin... Est-ce que c'est conforme à la Constitution française, ces textes qui sont en préparation ?
Alors, bonne question. André Auger.
Vous savez, notre Constitution, elle a été amendée plus de 20 fois. Donc, les prérogatives du Conseil constitutionnel, vous le savez, elles ont été élargies. Alors, pour que le Conseil constitutionnel donne son avis, il faudrait déjà que ce texte passe le barrage du Sénat, c'est fait, de l'Assemblée, c'est moins évident, et de ce fait, le passage au Congrès de Versailles, réunissant l'Assemblée et le Sénat,
c'est
encore moins évident. Croisons les doigts pour que ce ne le soit pas. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quelques jours, dans les colonnes du Figaro, a été publiée une tribune d'un juriste excellent connaisseur du territoire, qui rappelait ni plus ni moins que ce à quoi nous assistons avec la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui s'est passé avec les Afriques occidentales et équatoriales françaises, c'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de compétences et le délai de viduité de plusieurs années n'a même pas été respecté puisque l'indépendance a été assez rapidement proclamée. Et nous sommes dans exactement un même contexte avec des élus locaux qui sont prêts à brader les intérêts de la France sur le territoire de Nouvelle-Calédonie uniquement pour conserver... leur
Est-ce
siège.
Est-ce que ça risque de faire boule de neige ?
Jean-François
Évidemment. André Rouget et puis on change de chapitre.
C'est ça le problème aussi.
Bien évidemment, ça induira nécessairement un effet domino. Ça induira bien nécessairement un effet domino puisque nos départements, régions, collectivités d'outre-mer sont totalement abandonnés. Reconnaissons à Jacques Chirac qu'il avait un véritable intérêt pour l'outre-mer et qu'il a fait le nécessaire pour doper l'économie au travers des lois Ponce, des lois Perben, des lois Girardin, doper l'économie de ces territoires, faire en sorte qu'il y ait une réduction du chômage voilà. Brigitte Girardin aura été le dernier véritable ministre de l'Outre-mer. Vous savez, quand on est ministre de l'Outre-mer, la rue Oudinot, c'est un mini-Matignon. On intervient sur tous les domaines. Il y a des arbitrages qui sont rendus chaque jour sur l'agriculture, sur l'éducation. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'Outre-mer, l'exception faite de Manuel Valls, n'a pas le poids politique nécessaire pour peser dans le gouvernement, et il n'y a que des fantoches qui, dans le classement protocolaire, sont réduits au rôle d'ouvreurs de porte de leurs collègues.
Allez, on va parler de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie avec les propos d'Estelle Youssoufa, je voudrais qu'on l'écoute, et on écoutera aussi Bellamy à propos du dégel électoral, juste après cela.